Bonjour et bienvenue sur RDVoix, le 107.5 et le 101.7. C'est Assunta avec vous pendant une heure pour l'émission Kaléidoscope. Comme vous le savez, pendant la première demi-heure de cette émission, on vous emmène faire un tour du monde, des bonnes nouvelles, des infos aléatoires, de toutes sortes d'informations utiles, pratiques, sur des avancées scientifiques dans le domaine du bien-être, du travail, des finances, la nature, l'environnement, des anecdotes étonnantes également et tout ce qu'on entend trop peu et qui pourtant nous fait du bien. Voilà, c'est le tour du monde des bonnes nouvelles. Dans la deuxième partie de l'émission, nous consacrerons du temps à une rencontre avec un passionné ou une passionnée. Et chaque mois, un invité vient nous parler de sa passion, de la façon dont il ou elle a réussi à concrétiser en fait cette passion, soit en travaillant dans le domaine qui le passionne ou alors soit en gardant cette activité pour les loisirs. Alors tout de suite, comme vous le savez, Kaléidoscope c'est aussi la musique du monde. Nous partons faire une petite pause musicale vers la Barbade avec un morceau de Mighty Sparrow. C'est un morceau très ancien que je vous laisse apprécier.
Why do I keep fooling myself when I know you love someone else? Only a fool breaks his own heart. I pretend that I don't see when you walk with him down the street. Only a fool breaks his own heart. I have to admit it, even though you hurt me so, girl, I can't forget it. If I'm a man, I'd let you go. It's no use trying to hang on to a love already gone. Only a fool breaks his own. I have to admit it, even though you hurt me so, girl, I can't forget it. If I'm a man, I'd let you go. It's no use trying to hang on to a love already gone. Only a fool breaks his own heart. Only a fool breaks his own heart.
De retour sur les ondes de RDVoix, c'est toujours Assunta avec vous dans l'émission Kaléidoscope pour une petite heure de légèreté et d'infos utiles, pratiques, intéressantes. Je vais vous parler d'abord de quelques histoires touchantes avec des animaux. Nous parlerons d'un paresseux de 16 ans nommé Vasi. Il a été touché par un piège de braconnier et il a subi une amputation d'une patte arrière. Cela s'est passé donc cette année en Inde. Et grâce à la collaboration d'experts en prothèses et d'organisations pour la faune, il a été équipé d'une prothèse spécialement conçue pour ses besoins, à savoir creuser, fouiner et se déplacer bien sûr. Fassi a pu marcher de nouveau, s'équilibrer mieux, avec moins de douleur, ce qui est à la fois une réalisation vétérinaire remarquable et une belle histoire de résilience animale. Parlons maintenant du sauvetage d'une vache d'un abattoir grâce à un élan de la communauté. En Arizona, une vache a réussi à s'échapper d'un abattoir, puis a été recueillie par un sanctuaire pour animaux. Le propriétaire et une cinquantaine de donateurs ont pu réunir les fonds nécessaires en moins de 12 heures pour que la vache soit achetée et sauvée. Elle vit maintenant paisiblement dans ce sanctuaire avec un compagnon dans les meilleures conditions.
Yeah.
Nous voilà de retour sur les ondes de RDIWA, si toujours Assunta avec vous dans l'émission Kaléidoscope. Et pour clôturer cette petite partie d'anecdotes sur les animaux, je vais vous parler d'un chien guide qui a pu aider son maître lors d'un incendie. C'est un chien nommé Oakley dans l'état de l'Illinois aux États-Unis qui a aidé un officier de police pendant un incendie domestique. Enfermé derrière une barrière pour animaux, il a guidé l'officier vers sa laisse, ce qui a permis de le faire sortir en sécurité. Quel bel exemple, n'est-ce pas, de l'intuition et du lien fort entre les animaux de compagnie et les humains. Poursuivons maintenant notre tour d'horizon des nouvelles positives à travers le monde. Je vais vous parler de robots qui sauve les abeilles. Quand la technologie se met au service de la nature, c'est en Suède une expérience, une initiative qui a vu le jour avec des robots appelés Bee Saver, en français, sauveurs d'abeilles. Ces robots miniatures sont capables de repérer les abeilles piégées dans les réseaux de transport, de les prendre délicatement, de les relâcher dans des endroits sûrs où elles peuvent reprendre leur travail de pollinisation. Ces petites machines sont un exemple parfait de la fusion entre la technologie et la conservation de la biodiversité et pourraient potentiellement être utilisées dans le futur pour lutter contre le déclin des populations d'abeilles, essentielles à notre écosystème. Parlons maintenant de projets solidaires et sociaux. Nous allons parler des bancs de l'amitié qui ont été créés. C'est un projet qui a été lancé en Norvège qui a vu l'installation dans des espaces publics de bancs, d'espaces où les personnes âgées pouvaient se poser, se rencontrer et également rencontrer des jeunes, histoire d'échanger, de partager des moments de convivialité. L'objectif est de lutter contre l'isolement social, surtout chez les personnes âgées, et de favoriser les échanges entre générations. Le projet a été un tel succès qu'il a été étendu à d'autres pays, dont la France. Ces bancs sont souvent installés près des écoles ou des centres communautaires afin d'encourager les conversations entre les générations. Alors je rajouterai qu'il en est de même dans le Diwa puisque de nombreux bancs et espaces nous permettent de nous poser, d'échanger. Alors à nous d'en profiter.
If you're feeling lonely, maybe just sad and blue, this spicy rhythm is the right thing for you. All around the world, a message from the islands. Rather play the fool than suffer on in silence. Dance, soca dance, soca dance. Dance, soca dance, do the soca dance.
jump. I don't give a damn, baby, just shake your rump. The rhythm is hot, moving fine. Come on, party people, shake your body line.
Dance, so good dance.
Encore une initiative solidaire, l'Auberge des Migrants. Alors, elle a été créée à Calais. L'Auberge des Migrants est une organisation qui aide les réfugiés en fournissant des repas, des vêtements, des espaces pour se reposer. Ce projet humanitaire a gagné en popularité grâce à son approche chaleureuse et humaine, offrant une aide concrète et créant des liens entre les bénévoles, les locaux et les migrants. L'initiative s'est étendue à d'autres régions de France et a inspiré des projets similaires dans d'autres pays de l'Europe, soulignant l'importance de la solidarité dans un contexte mondial difficile. Et si je vous parlais maintenant des dauphins sauveteurs d'humains ? Eh oui, on en revient à nos amis les animaux. Alors en Nouvelle-Zélande, un groupe de dauphins a été observé en train de protéger un nageur humain des requins. Le nageur, pris de panique après avoir remarqué la présence d'un requin à proximité, a été entouré par un groupe de dauphins qui l'ont guidé en sécurité jusqu'à la plage. Ce comportement, bien que rare, est un exemple frappant de la solidarité animale et rappelle que certaines espèces possèdent une étonnante empathie envers l'homme. La solidarité entre les animaux, ça existe aussi. Je vous parlerai des éléphants du Botswana qui sauvent un rhinocéros. En 2023, dans un parc naturel du Botswana, des éléphants ont été observés en train de défendre un rhinocéros contre un groupe de braconniers. Lorsque les braconniers ont tenté de s'approcher de l'animal, les éléphants qui étaient proches ont formé un cercle protecteur autour du rhinocéros, les empêchant ainsi de s'approcher et de commettre un acte de braconnage. Cette alliance interspécifique a été un exemple saisissant de l'intelligence animale et de la façon dont certaines espèces peuvent consciemment ou inconsciemment s'unir pour se protéger mutuellement. Et si nous parlions des arbres à présent, un arbre invincible sauvé par des habitants. Dans un petit village en Italie, un arbre centenaire, symbole de la communauté, a été sauvé d'une coupe programmée après qu'un groupe d'habitants se soit rassemblé autour de lui pour former un cercle humain. L'arbre, surnommé l'arbre de vie par les habitants, avait une valeur historique et culturelle inestimable pour le village. Les habitants ont organisé une campagne de protestation pacifique et ont attiré l'attention des médias. Finalement, les autorités ont cédé et ont décidé de préserver l'arbre, donnant lieu à un moment de solidarité remarquable. Et pour terminer, nous allons parler de la solidarité des humains autour des crowdfunding. Les crowdfunding, ce sont les financements participatifs. Alors, le concept du crowdfunding, financement participatif, connaît une véritable explosion ces dernières années pour soutenir des projets humanitaires. En 2023, par exemple, une campagne en ligne pour financer l'achat d'une prothèse pour un enfant atteint de malformations congénitales a récolté plus de 2 millions d'euros en quelques semaines seulement, permettant aux jeunes garçons de retrouver une mobilité qu'ils n'avaient jamais connue. Des campagnes similaires ont permis de financer des écoles, des hôpitaux ou des projets d'aide d'urgence. Tous ces exemples nous montrent la beauté des interactions entre l'homme, la nature, les animaux, et elles sont un rappel que la solidarité, l'innovation, l'amour du vivant peuvent ouvrir des portes à des changements positifs, même face aux défis mondiaux.
Chaque fois, c'est vos pages qui Radioscope sur RDIWA.
Nous voilà donc de retour dans la deuxième partie de l'émission. C'est toujours Assunta avec vous dans l'émission Kaléidoscope. Et comme on vous l'a promis, c'est le moment de laisser la place à ceux et celles qui font vibrer leur quotidien grâce à leur passion. Aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un qui fait vibrer sa passion par l'écriture, Manuel Castellaro, qui va venir nous parler sur les ondes de RDIWA de son roman. Manuel, bonjour.
Bonjour.
Donc, c'est la première interview radio pour toi concernant ce roman que tu as sorti.
Oui, absolument. C'est intimidant.
Alors, est-ce que tu pourrais peut-être déjà nous présenter ce roman que tu as écrit en quelques phrases, sans trop en dévoiler ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est un roman noir, mais je dirais anthracite, parce que c'est pas un roman non plus qui est effrayant ou qui est gore. C'est une histoire plus psychologique, je dirais un policier psychologique, si on peut dire ça. Voilà, il y a plusieurs personnages. Ça, c'est une histoire qui tourne autour d'une petite fille qui s'appelle Clara. Et autour d'elle, il y a quatre adultes qui, en fait, ont un rôle dans l'histoire. Il y a donc sa mère, il y a Julie, il y a Emma, il y a Régine, il y a un homme qui s'appelle Lionel aussi, et tous ces protagonistes, en fait, évoluent autour de cette petite fille qui est l'élément central du roman.
Alors, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour toi et l'étincelle, on va dire, qui t'a donné envie d'écrire cette histoire ?
Alors, moi, il faut savoir que j'ai toujours écrit. Mon père, pour se moquer de moi, quand j'étais petite, il m'appelait Madame de Sévigné. Parce que j'avais des correspondants dans le monde entier et je passais des journées entières à écrire des lettres à droite, à gauche, à plein de gens. Et j'ai toujours aimé écrire, en fait. Et c'est mon moyen d'expression le plus facile et le plus évident. D'ailleurs, même quand je me dispute avec des gens, que ce soit mon mari ou des membres de ma famille ou même au travail, j'écris parce que j'ai l'expression verbale moins facile que l'expression écrite. Et j'ai toujours eu envie d'écrire des livres. Même quand j'étais au CP, je me souviens qu'un instituteur nous avait demandé qu'est-ce qu'on voudrait faire plus tard comme métier. Et moi, j'avais répondu que je voudrais être écrivain. Ce qui avait été très bizarre dans cette classe parce que j'étais dans une zone rurale où tout le monde voulait être fermier, vétérinaire, institutrice. Et ça m'avait valu quand même des remarques pas toujours très agréables du fait que moi, je voulais être écrivain. C'était déjà mon rêve quand j'étais petite. Je m'étais dit un jour, j'écrirai des histoires. Et puis, la vie aidant, c'est vrai que la vie faisant, j'ai fait plein d'autres choses. J'ai travaillé dans plein de domaines différents. J'ai eu des enfants. Je me suis mariée plusieurs fois. J'ai fait beaucoup de choses. Et j'ai jamais eu le temps vraiment de m'adonner à ma passion. Jusqu'à, on va dire, ces 3-4 dernières années où j'ai commencé à écrire intensivement. Il faut savoir aussi que mon grand-père était éditeur, un éditeur sulfureux et pas très bien connu. Donc on peut penser que ça aurait pu être une chance pour moi et que grâce à lui, j'aurais pu éditer toutes les fantaisies littéraires qui me passaient par la tête. Mais en fait, pas du tout, parce que mon grand-père déjà est décédé 20 ans à peu près avant que je me lance vraiment dans l'écriture. Et en plus, il y a plusieurs branches de famille chez nous, et nous, on était la branche fâchée. C'est-à-dire qu'il était fâché avec ma maman, qui était donc sa fille aînée, et on n'avait pratiquement aucune relation avec lui. Donc, il n'a pas du tout été une aide pour moi, pour mon travail d'édition. Mais j'ai toujours eu en moi cette envie d'écrire et ce besoin d'écrire. C'est pas mon premier essai, ce roman, comme je peux l'expliquer. J'ai écrit d'autres choses avant que j'ai pas vraiment tenté de faire publier. Celui-là, c'est le premier que j'ai vraiment envie de faire connaître et de diffuser.
Merci, Manuel. Et dans le processus d'écriture, est-ce que tu as une routine, un lieu ou alors des rituels particuliers ou comment te vient l'inspiration ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Alors, je peux vous dire pour ce roman, parce que c'est vrai que des autres livres que j'ai écrits, ça s'est pas passé tout à fait de la même façon. Il y en avait un qui concernait, qui était plus un recueil de souvenirs vis-à-vis de ma mère, et justement de ma relation avec ma mère et sa relation avec son père, ce fameux éditeur qui était compliqué quand même à vivre. Et je sais que pour ce roman, pour moi, la problématique la plus importante, c'était de trouver du temps et de la disponibilité pour être seule et tranquille. C'était surtout ça qui était important. Donc, je ne pouvais pas me payer en plus le luxe d'avoir des rituels ou des habitudes. Je disais que je travaillais dès que je pouvais, dès que j'avais un petit peu de disponibilité. Donc, essentiellement, le soir tard, ce qui me faisait de courtes nuits. Mais bon, Voilà. Et au niveau de l'inspiration elle-même, je savais déjà où je voulais aller à la fin du livre. Je savais où je partais, je savais où j'allais. Par contre, le chemin pour y aller, ça a été plus de travail. Alors après, il y a deux façons, en fait, souvent d'organiser ses pensées quand on écrit. Il y a des personnes qui font un plan et qui remplissent, en fonction de ce plan, les différentes étapes. Puis il y en a d'autres, dont je fais partie, qui commencent par jeter sur le papier toutes leurs idées et qui après les organisent. Donc moi, c'est plutôt ça. Je commence par prendre des notes, mettre des morceaux à droite, à gauche, les articuler les uns avec les autres, voir comment après je peux les modifier, je les relis. Mais c'est plus le côté je jette mes idées et après je les organise.
Très bien, dans ton roman, on a des allers-retours entre différentes scènes.
Oui.
Donc, on va dire cette thématique-là, ce genre littéraire en particulier, est-ce qu'il t'a été inspiré peut-être par d'autres auteurs ou est-ce que c'est un style que tu aimes particulièrement?
J'aime bien les histoires en fait où on ne sait pas à quoi on va s'attendre à la fin. Et j'aime bien qu'elles se déroulent dans plusieurs espaces-temps et plusieurs espaces géographiques. Et c'est vrai que pour moi, oui, il y a eu des précédents, il y a des films. J'ai plus été marquée peut-être par des films ou oui, ou même quand même des lectures de quand j'étais plus jeune aussi. C'est plus des sentiments, des impressions qui ont pu m'imprégner. C'est important pour moi que ça se déroule dans différents lieux. Bon, là, ça se déroule principalement en Drôme et en Haute-Savoie. Et c'est vrai que ces deux départements sont importants pour moi. Bon, l'un parce que j'y ai grandi et l'autre parce que j'y ai vécu la majeure partie de ma vie. Donc c'était important que ces deux départements apparaissent parce que c'est vraiment les deux piliers de la personne que je suis.
Alors, une petite question parlant de la Drôme et de la Haute-Savoie, une petite question qui m'a traversé l'esprit. À un moment donné, le personnage principal mentionne qu'elle n'aimait pas le fromage de la Drôme. Est-ce que c'est du vécu ou alors?
Oui, je dois avouer que j'ai une aversion totale pour le fromage de chèvre. Mais en fait, en général, pour tous les fromages, sauf, bizarrement, ceux dans lesquels j'ai été élevée. Donc, par exemple, je suis grande. J'aime beaucoup la fondue, la raclette, le bertou, le gruyère. Tous les fromages avec lesquels j'ai été élevée. Mais je n'arrive absolument pas à adhérer au fromage de chèvre. Ça, donc, ça me.
Très
J'y
bien.
arrive pas.
Et pour parler de tes personnages, toujours, comment as-tu donné vie en fait à ces personnages principaux? Est-ce qu'il y a eu peut-être l'un des personnages en particulier qui a été plus difficile à cerner,
Alors, c'est vrai que quand j'ai fait relire mon manuscrit, j'ai un groupe d'amis et de copines hein, qui sont mes relectrices. Et quand je leur ai fait lire le manuscrit au départ, il y en a une qui m'a dit, ce personnage-là, il faut que tu le fasses aimer. Et je me suis aperçue que je ne l'avais pas assez développé. C'était un personnage qui était resté quelque chose de transparent, translucide même, qui c'était plus une émanation. Et je me suis dit, mais effectivement, cette personne-là, je ne la fais pas vivre assez. Et donc, j'ai pris en fait des éléments de plusieurs personnes que j'aime bien, des choses que j'apprécie chez les uns, chez les autres, et je les lui ai attribuées. Et ça a rendu, à mon avis, le personnage beaucoup plus réel et beaucoup plus fort. Voilà. Après, les autres personnages sont des amalgames aussi entre plusieurs personnes, entre des traits de caractère, entre des souvenirs, aussi des remarques que m'ont fait certaines amies concernant des personnes et que je me dis, tiens, c'est intéressant ce qu'elle dit de telle ou telle personne et j'ai envie de me l'approprier. Donc il y a du vécu, mais pas que.
Alors, à ce stade de notre échange, Manuel, j'aimerais te demander si tu veux bien nous faire profiter d'une petite lecture d'une partie de ton roman.
Mais tout à fait. Moi, je me propose de vous lire donc le prologue de l'histoire, celle qui en fait démarre, hein, celle qui démarre l'histoire. Hein. Donc, nous avons cheminé environ 20 minutes depuis le centre-ville dans un silence ouaté. Mais désormais, le vent s'est levé et la neige fouette mon visage et celui de la petite qui trottine bravement à côté de moi. Je porte nos deux sacs à dos, plus les deux sacs de couchage, plus un sac de vivres et de produits de première nécessité. Mon dos me rappelle les années passées et celle à fuir toutes les activités sportives en général. Le routier ukrainien qui nous a pris en stop à la sortie de Valence ne parlait pas un mot de français. C'est parfait. Il n'a pas pu me poser de questions, il ne sera pas capable d'y répondre si on lui en pose un autre sujet. J'ai d'ailleurs compris qu'il ne faisait que traverser le pays pour retourner dans le sien. Le chalet est toujours là, décoloré par le temps, grisé par les intempéries, mais solide, blotti entre un énorme rocher qui le cache à la vue et une forêt dense et sombre d'épicéas. Je le sais inhabité, une clause municipale en interdisant l'accès en hiver. Il faudrait traverser les sacro-saintes pistes de ski à pied, ce qui risquerait de les endommager. Les propriétaires sont des lointains cousins de ma grand-mère, et j'ai pu constater, lorsque je suis venue y disperser les cendres de mon père, que la porte serait facile à forcer. La neige amoncelée contre le seuil de granit complique un peu ma tâche, mais j'ai trouvé une vieille pelle rouillée, oubliée contre un mur, et je parviens assez rapidement à la dégager, suffisamment pour pouvoir nous glisser toutes deux à l'intérieur. Je finirai de libérer le passage demain. Un rideau gelé et cotonneux a recouvert toutes les fenêtres et diffuse à l'intérieur une étrange lueur bleutée, presque sous-marine. La vieille cuisinière à gauche de l'unique pièce, sans compter la petite alcôve avec son grand lit de bois clair, vont me permettre de réchauffer ma fille, de lui préparer quelque chose à manger, puis de la mettre au lit. J'y déploie nos deux sacs de couchage et je ressors vite récupérer du bois sur le tas abandonné sous la pentille. Je ne crois pas que ça nous suffira pour tout l'hiver. Il est parfois long dans cette région. En 1980, la dernière chute de neige de la saison hivernale avait eu lieu le 1er juin. Pas d'eau courante, mais une cabane contre la maison fait office de toilette, avec sa cuvette de zinc cabossée posée sur une caisse de bois à même la terre. Je ramasserai des aiguilles de sapin pour recouvrir après usage. Je ne sais pas combien de temps nous allons tenir loin de ce monde qui me pourchasse, de ces chiens qui aboient. Je dois sauver Clara. L'éloigner de tout ça, fuir. Voilà, c'était le prologue donc de mon histoire.
I've got that old feeling that seems to fill the air. It's Christmas in my Caribbean land. And although there's no snow or sleigh bells to be heard, this feeling's oh so grand. Now soon the bells will be ringing, the choir singing in good cheer. Forgotten friends are brought to mind. Oh, tell me I'm a-feeling, why can't this Christmas feeling exist among all people through the air? I gon' drink up me sherry, I gon' drink and be merry. It's Christmas time again throughout the land. I gon' wake up real early, bake me jug and me turkey. This feeling's oh so grand. I can invite me neighbor to stop by for a liquor. All forgotten friends are brought to mind. Oh, tell me I'm a-feeling, why can't this Christmas feeling exist among all people through the year? This feeling's oh so grand. Now soon the bells will be ringing, the choir singing in good cheer, and old forgotten friends are brought to mind. Oh, tell me I'm a-feeling, why can't this Christmas feeling exist among all people through the year? Oh, yeah. Exist among all people through the year. Oh, exist among all people through the year.
Et nous voilà de retour dans l'émission Kaléidoscope. C'est toujours Assunta avec vous et nous allons poursuivre notre échange avec Manuel Castellaro concernant donc la publication de son roman. Alors Manuel, on n'a pas parlé du titre de ton roman. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Oui, alors le titre c'est Le Greffa. Ça a une signification bien précise. Mais vous la découvrirez en lisant le livre. Voilà, ça vraiment, c'est pas un nom inventé.
Merci à toi. Alors, pour reprendre un petit peu le processus, on va dire, de l'écriture, il s'est écoulé combien de temps entre l'idée initiale et le point final de ton manuscrit ?
Ça a été relativement rapide, dans la mesure où j'avais déjà l'impression, parce qu'il était un peu écrit dans ma tête, donc je dirais que ça m'a pris un an, mais en sachant que j'ai peu de temps à y consacrer, donc je pense que ça aurait été plus rapide si j'avais vraiment fait que ça. Ce n'était pas le cas. Mais oui, je dirais un an, grosso modo.
Et les étapes clés entre la fin de l'écriture et la publication ? Alors, je crois savoir que tu es passé par l'auto-édition. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce processus ?
Alors, j'ai fait deux choses en parallèle, c'est-à-dire j'ai fait deux actions en parallèle. C'est-à-dire, d'un côté, j'essaye effectivement de le faire publier par des maisons d'édition traditionnelles, hein. Je l'ai envoyé, on va dire, à une 70 environ maisons d'édition diverses et variées. Je reçois au compte-goutte quelques réponses qui pour l'instant sont négatives. Et en parallèle, donc j'ai fait une auto-édition. Bon, il y a trois processus possibles là, actuellement pour éditer un livre. On passe par les maisons d'édition traditionnelles, mais c'est assez difficile parce que publier un premier roman, ils ont tellement de demandes et de propositions qu'ils ne s'y risquent pas trop. En plus, il faut savoir qu'ils reçoivent énormément de manuscrits. Donc, ils décident d'en publier un de temps en temps et c'est pas forcément le nôtre, évidemment. Ça, c'est la première démarche que tout le monde fait en général et avec, en général, 90% d'échecs pour 10% de réussite. La deuxième démarche, c'est de passer par des organismes qui, eux, se chargent. Alors, bon, d'abord, dans la première démarche, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a rien à faire, hein. C'est-à-dire qu'une fois que la maison d'édition a estimé que le livre était intéressant, il se charge de tout, de la mise en page, de l'édition, du nombre de volumes à faire, et de la diffusion, de la publicité, de tout. Ils font tout eux, et nous, on n'a pas grand-chose à faire d'autre, à part si le livre est vendu, il y a un certain pourcentage qui nous revient par livre, qui est en général assez faible. Hein. Mm-hmm. Mais bon, par contre, on n'a rien à faire pour assurer la promotion de notre livre. La deuxième possibilité, c'est de passer par un organisme qui, lui, en fait, va se charger de l'édition, de la promotion, et etc., mais vous demande en contrepartie de participer, au moins en achetant, par exemple, 60 exemplaires de votre livre à un prix qui est négocié, mais eux, en échange, se chargent de la diffusion et de la promotion. Ils ont en général moins d'impact que les maisons d'édition, et la diffusion est moindre. Et il faut savoir que souvent, le simple fait d'avoir payé vos 60 ou 100 exemplaires obligatoires, ça suffit à assurer pour eux le but lucratif. Donc, parfois, la promotion derrière ne suit pas forcément vraiment. Et la troisième voie, c'est celle que j'ai choisie, c'est celle de la liberté totale, à savoir que je fais le livre, je crée la couverture, je relis, je fais les corrections, j'imagine tout, et je passe par un site d'auto-impression qui, en fonction de mes demandes, va éditer un certain nombre de volumes, va imprimer un certain nombre de volumes, mais n'en fera pas la promotion. J'ai la possibilité, moi, après, de vendre mes exemplaires comme je le souhaite, d'aller les diffuser comme je le souhaite, et d'essayer d'en faire la promotion comme je le souhaite. Je suis entièrement libre, et je n'ai pas d'intermédiaire, en fait, entre la réalisation de mon bouquin et mon lectorat. Voilà. Donc, c'est cette voie-là que j'ai choisie.
D'accord, l'auto-édition alors pour toi. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti en tenant ton livre, en le recevant, on va dire ton bébé littéraire dans les mains pour la première fois ?
Alors, ça dépend beaucoup. Comme j'en ai fait plusieurs, je dirais que quand c'était celui que j'ai réalisé concernant ma famille, j'ai ressenti une sorte d'apaisement très fort, d'avoir pu mettre sur le papier ce qui n'avait pas été simple dans mon enfance et dans ma vie de famille. Et je me suis sentie en paix avec les membres de ma famille d'avoir fait ça et d'avoir pu poser. Ça m'a ouvert la voie du pardon et de l'apaisement, de la résilience, tout ce qu'on veut.
C'était une sorte de voie thérapeutique aussi à travers cette écriture ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Et celui-là, j'étais fière parce que déjà, je le trouvais joli. J'étais contente de ma couverture. J'étais contente de ce qu'il y avait dedans. Donc, j'avais aussi une grande fierté et un sentiment d'achèvement. On dit que dans la vie, il faut avoir fait des enfants, si on peut, ou élever des enfants, planter des arbres, écrire des livres, et avoir été aimé pour avoir un sentiment d'avoir réussi sa vie. Bon, j'ai de la chance d'avoir fait tout ça et je me suis sentie apaisée par rapport à mon chemin de vie, en me disant que j'avais fait des choses qui étaient importantes pour moi et que ça, c'était vraiment un aboutissement aussi. L'aboutissement total pour moi, ce serait qu'une maison d'édition s'intéresse à mon livre et veuille le... ce serait une reconnaissance. Mais oui. Bon, je peux m'en passer si les gens qui l'ont lu l'apprécient et me le disent. Voilà.
Et bien justement, est-ce que tu peux nous parler peut-être des premiers retours que tu as pu avoir concernant ton roman ? Est-ce qu'il y en a eu un qui t'a le plus touché peut-être et ou un autre qui a été inattendu de la part de tes premiers lecteurs ?
Alors je dois dire que je n'ai eu que des retours positifs, ce qui est très très agréable pour moi et qui m'a vraiment fait plaisir et conforté. Ça, ce qui me touche le plus, c'est quand les gens rentrent dans le détail en fait de ce qu'ils ont lu et qui me parlent des personnages et comment ils comprennent et comment parfois ils extrapolent par rapport à ce qu'ils ont lu en disant oui mais après il va peut-être se passer ça ou ça, et comme si en fait les personnages étaient devenus vivants pour eux. Et j'aime aussi qu'on me dise eh ben tu vois, en lisant ton roman, j'ai eu la sensation que de marcher dans la neige, de ressentir cette odeur de sapin dont tu parles parfois. J'avais l'impression vraiment d'être en montagne et de voir le paysage dont tu parles aussi. Et voilà, j'aime aussi que les gens me disent « Maman, j'ai ri à tel moment » ou « À tel moment, j'ai eu peur ». J'aime bien qu'ils me parlent de leurs émotions en règle générale. Parce que bon, pour l'instant, effectivement, j'ai eu beaucoup de retours positifs. J'ai eu que des retours positifs. Mais en même temps, j'ai pas diffusé à très grande échelle. J'ai une séance de dédicace le 2 novembre à l'appart café à Bourg-lès-Valence, où là, c'est des personnes qui ne sont pas de mon entourage qui vont venir. Et peut-être que les retours seront différents. Mais pour l'instant, j'ai eu aucune personne qui m'a dit j'ai lu votre livre et je l'ai pas du tout aimé. Bon.
Personnellement, je l'ai lu et j'avoue que j'ai beaucoup aimé, surtout cette espèce d'ambiance, un petit peu de suspense jusqu'à la fin. Et puis, bien sûr, le dénouement inattendu. Alors, je n'en dirai pas plus. Hein. Je laisserai nos chers auditeurs découvrir en fait ton roman. Alors, quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui rêve d'écrire son premier livre, son premier roman, mais qui n'ose pas se lancer ?
Qui n'ose pas se lancer, je dirais que d'écrire, il faut absolument le faire. Et par contre, il ne faut pas hésiter à refaire lire les manuscrits, même quand ils sont à l'état d'ébauche. Et puis, je dirais aussi de ne pas essayer de se mettre... Enfin, si, il faut quand même se mettre un peu à la place du lecteur, mais il faut surtout essayer de vivre l'histoire. Parce que ce qui va la rendre vivante, c'est si elle est vivante pour la personne. Et je pense qu'il faut vraiment avoir l'impression d'être dans un film un peu et de voir les choses... se placer, voir les images, essayer de fermer les yeux pour ressentir ce qui se passe au moment du livre, de ce qu'on raconte, pour être vraiment dans quelque chose de réel et pas simplement chercher le bon mot qui va être la bonne place, parce que ça viendra après. Si l'histoire est vivante dans la tête de la personne qu'elle l'expose, après, si le mot n'est pas exactement celui qu'il voulait employer, il le verra à la relecture. Donc, plus se polariser sur l'histoire, la réalité des personnages, comment ils vivent dans sa tête. Voilà. Et puis aussi peut-être se faire des petites fiches sur chaque personnage, sur le caractère, les habitudes, peut-être l'enfance de cette personne. Essayer d'en savoir le plus possible pour lui donner de la consistance.
D'accord. Est-ce que toi-même, tu as dû un petit peu entrer justement dans la peau de tes personnages ?
Oui, il fallait qu'ils soient réels pour moi. Il fallait vraiment que pour moi ce soit des personnes que je pouvais croiser et que avoir une sensation presque tactile en fait.
Merci. Alors
sensorielle, en tout cas.
Très bien. Tu disais au début de notre échange que tu as toujours écrit, tu as toujours eu envie d'écrire. Est-ce qu'il y a eu des livres ou des auteurs en particulier qui ont, on va dire, qui ont stimulé ce goût de l'écriture chez toi ?
Oui, absolument. Alors, il y a des vieux livres, je pense que certains parmi tes auditeurs s'en souviennent peut-être, mais le premier livre de poche que j'ai lu de toute ma vie, c'était Les Jalnas de Mazot de la Roche. C'était une saga en 20 volumes, si mes souvenirs sont bons, ou en 16 volumes, qui racontait l'histoire d'une famille. Et j'ai lu chacun de ces livres, je crois, au moins 5 fois. Au point que la famille me paraissait vraiment vivante. J'avais l'impression de grandir et de vivre avec les White Oak, puisque c'est le nom de la famille. Et puis, je lisais un peu tout. Et je lisais même l'annuaire, si j'avais que ça sous la main, je lisais l'annuaire. Et quand j'avais de la fièvre, je voyais dans mes draps des lettres. Et je me disais, je dois lire les mots qui sont écrits sur mes draps. C'était la fièvre qui me donnait cette impression-là. Mais bon, j'ai lu aussi... qu'est-ce que j'ai lu aussi ? J'ai lu beaucoup de romans policiers. J'aimais beaucoup Agatha Christie, bien sûr. Ellery Queen, quand j'étais gamine aussi. Après, je lis un peu tout ce qui me passe sous la main. Donc, il y a des choses que j'aime et des choses que j'aime moins. Des choses que je trouve faciles et d'autres que je trouve moins faciles. Bon, je suis toujours attirée par des romans ou des ouvrages où la personnalité et la psychologie des personnages est importante. J'aime pas trop les histoires, que ce soit en film ou en livre, où il y a énormément d'action et où, en fait, l'action cache un peu la personnalité des protagonistes. C'est pas vraiment ma tasse de thé, on va dire.
Alors on va se projeter un petit peu et j'aimerais te demander si tu as déjà en tête ou sur papier d'ailleurs des idées pour un prochain roman ou un prochain livre.
Alors je vais te faire rire, j'étais une grande fan de la série La Servante Écarlate et oui. La fin de la série m'a énormément déçue, donc je suis en train de réécrire la fin. Ce qui va ne servir à rien, parce que je pense que si je dis à Margaret Atwood que je suis en train d'écrire la fin de sa série, elle va me mettre aux trousses toute une flopée d'avocats qui vont me dire que c'est pas du tout possible de s'approprier ainsi une histoire pour en réécrire la fin. Donc je fais ça, en attendant que la prochaine inspiration me vienne sur un autre roman. Je pense que je vais rester dans le roman. Et j'aimerais un jour pouvoir publier... un livre que j'ai fait sur mon travail, sur mon emploi, que je ne citerai pas ici. Pour l'instant, je ne peux pas le faire parce que je suis soumise au devoir de réserve. Mais j'espère un jour pouvoir le diffuser plus largement que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent, puisque c'est un livre quand même personnel et voilà, qui parle de mon emploi. Après, je n'ai pas pour l'instant encore en émergence une idée de roman, mais j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à écrire celui-là. Et je me dis que j'aurais certainement envie d'en écrire d'autres par la suite. Après, il faut avoir le temps. Je voudrais écrire peut-être sur la maternité. Je pense que c'est un sujet qui est vaste. Je reste persuadée que ce qui est intéressant dans les romans, c'est pas tellement l'originalité de l'histoire, quoique, mais tout a été dit dans beaucoup de sujets. On a beaucoup écrit sur l'amour. On a beaucoup écrit sur la haine, on a beaucoup écrit sur la maternité, on a beaucoup écrit sur plein de choses. Je pense que c'est souvent dans la façon de le raconter que ça devient intéressant, plus que dans le sujet lui-même. Et je pense qu'il y a des choses sur la maternité que j'aurais envie d'écrire.
Eh bien, on sent en tout cas que l'écriture est présente tout le temps dans ta vie, à tout moment et sur tous les sujets. On te souhaite en tout cas sur les ondes de Erdivoi une très belle continuation, Manuel. Alors, je rappelle le titre de ton roman, Le Grefa, et donc à découvrir un peu la signification de ce titre dans le roman. Nous te souhaitons effectivement une très très belle continuation et puis la concrétisation de tes projets.
Merci beaucoup Assunta, merci de m'avoir reçu ce soir et de m'avoir permis d'exprimer tout ça, c'était très agréable.
On va rappeler par contre la séance de dédicace que tu as le 2 novembre, alors si tu peux nous rappeler lieu.
Donc c'est à l'Appart Café, c'est un café-théâtre qui se trouve donc à Bourg-de-Valence sur le 11 quai Tanaron. Et donc, la séance de dédicace est prévue à partir de 17h30. Il n'y a pas d'obligation d'achat, hein, vous pouvez venir simplement, voilà, juste pour. Je lirai certains passages de mon livre, et puis j'essaierai de vous le faire aimer aussi à travers ces passages de lecture. Voilà. Donc, le 2 novembre à 17h30 à l'Appart Café, quai Tanaron.
Merci Manuel Castellaro sur les ondes de Erdivoi. Nous arrivons à la fin de notre émission Kaléidoscope. C'était Assunta avec vous. Je vous dis à très bientôt sur les ondes de Erdivoi.
Burn out again. I must see my mountains. Wait for me. Do you see in the air the greetings of the birds, sky parading? I wish it were the day when I'd be finally ready not to return. But my father keeps calling me back home, back to our town. He wants me to study, at least to learn. But if there is one thing I don't want to keep spinning, I'd rather live without breaking my back for bones. I must give in. I'm the lad of forest, friend of gnomes and fairies, virgin spirits. My soul is crying to see a multitude of landscapes praising wildly. Crushes my plans of liberty. He uses my feelings to better me. But I'm growing stronger. One day I will finally get rid of my. Father, I'll look at you in the eyes to feel the satisfaction of feeling nothing while you'll be crying. We will argue so hard, but my words will be so sharp that on top of your authority, I will break your heart. Break me from your forever.